Cette semaine, on parle de 250 millions de pixels, de la Super Lune, du Lightroom CC nouveau et du Sony Xperia Z5. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 79. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de François Blanchette.
Salut!
Et Christian Jarry.
Toujours présent.
Toujours présent. Messieurs, qu'avez-vous fait côté photo dernièrement?
T'en parlais en intro de l'émission, la Super Lune. Y a-tu quelqu'un sur la planète, en fait, aux endroits où la fameuse
En Amérique
Super Lune...
du Nord, ouais, tu voulais
ça.
Dire?
Oui. Voilà. Qui n'a pas entendu parler de ça. C'était. Moi, j'en revenais pas de voir sur le profil, sur le fil d'actualité Facebook, le tas de super lunes qui sont apparues.
Oui, hein. Tu dis des super photos.
Ah, il y en avait des magnifiques.
Il y en avait des très belles.
Ouais. Il y en avait, écoute.
Il y en avait faites avec des téléphones.
Oui, c'est ça, des petits points blancs.
Oui, ça, j'ai pas trop compris le
avec un petit descriptif en dessous, vraiment, la lune est très belle. Puis c'est tellement petit que c'est blanc et non rouge.
Une des belles, moi, j'ai vu, ça, vous l'avez sûrement vu, tu sais, comme les cinq phases, mais dans la même image.
Oui.
Puis il y en a un autre que j'ai vu comme ça, mais la personne était sur la rive sud de Montréal, prenant Montréal avec les cinq phases de la lune.
Oh,
d'après moi, c'est un montage, là, mais c'est quand même très réussi, c'est très joli.
Ah, je suis certain que c'est super beau. D'ailleurs, il y a des gens qui ont... Quand tu lis des commentaires sur ces photos-là, il y a des gens qui disent « Bon, c'est pas de la photo, ça, c'est de la retouche photo, puis blabla. » Je me suis mis à lire ça, erreur.
Il y a toujours des gens
faut pas lire
dénigrer,
les commentaires sur Facebook.
Ouais. Il faut pas lire les commentaires sur Internet.
Oui, oui c'est ça, voilà. Règle d'or, je dirais.
C'est le côté obscur.
Alors, je me suis lancé dans la propre capture de la lune moi-même.
De la
je
super lune.
Oui, comme j'étais de retour à la maison vers 9h30 à peu près, puis que c'était à 10h10 qui était le début du meilleur moment pour prendre la lune, c'est-à-dire en plein dans le centre, je me suis dit, bon, ben parfait, je sors mon trépied, ma Canon 7D, ma 200 mm, let's go, on va s'essayer. Fait que je m'installe, puis je passe 15 minutes à essayer des réglages, tout ça, puis je me rends compte que c'est plate un peu d'avoir une lune toute seule dans le ciel noir, fait que je me suis dit, tiens, je vais me servir des feuilles dans l'arbre en face de chez nous pour entourer la lune, tu sais, pour faire un avant-plan complètement hors foyer, parce que je l'ai fait à 2,8. Mais là, je fais un test, OK, c'est beau. Mais là, les feuilles, ils sont pas éclairées, il fait noir. Je descends dans le sous-sol, je vais me chercher une petite flashlight. J'éclaire carrément les feuilles. Mm-hmm. C'est trop exposé. OK, ben là, je me suis mis à flasher la lumière. Puis c'est ça que ça a donné. Ça a donné une bonne dose de lumière parce que c'était pendant l'exposition d'à peu près 4 ou 5 secondes. Ça l'a donné un peu moins de lumière en enlevant la lumière comme ça. Fait que voilà, ça a donné ce que vous pouvez voir sur la page... d'objectifs numériques.
Cool. Ça a été un super échec, personnellement. Mais il faut dire que j'étais mal placé et j'avais pas le goût de... Je l'ai regardé, mais dans ma cour, j'ai en fait, c'est le merisier qui est à cet endroit-là où il y avait la lune super gigantesque. Fait qu'oublie ça. Il aurait fallu que je me rende ailleurs puis ça, puis... Bon, j'avais pas le goût ce soir-là.
Non, ben c'est ça, on le dit souvent, hein? Pour réussir à capter la photo, il faut se déplacer
exact.
Souvent.
Ouais.
Fait que quand ça nous tente pas, ben il faut accepter qu'on fait le sacrifice peut-être d'une belle photo.
Ça, puis il y avait trop de vin, mais bon, ça c'est une
histoire. Ben c'est une bonne excuse. puis de ton côté, Christian?
Je suis retourné à quelque chose, ça faisait un certain bout de temps. J'ai pu traîner mon appareil photo dans un show que pour une rare fois, je suis allé seul.
Mm-hmm.
Puis c'était un show punk rock, fait que j'étais... Comme j'étais tout seul, j'étais pas sur le balcon, je suis allé dans la foule, puis t'es tout seul, fait que tu peux faire ton chemin tranquillement.
Mm-hmm.
J'étais rendu pas loin de l'avant de la scène. Là. J'ai pris quelques photos qui ont de l'allure, là, mais j'aimerais tellement, tu sais, je vois ta A7 ici, là, j'aimerais tellement pouvoir traîner quelque chose de même dans un show à un moment donné, prendre des vraies photos, avoir une accréditation de pouvoir aller en avant, prendre des photos vraiment comme je le désire, là, mais bon.
Ouais.
On s'amuse avec ce qu'on a là.
Ah ben oui, puis moi même moi c'est rare, j'ai eu une fois, j'avais même pas d'accréditation, j'avais pris le 70-200 pour Lady Gaga, puis j'ai pu prendre des photos, mais si on avait fouillé mon sac à dos ou quelque chose, j'aurais pas pu prendre de photos.
C'est ça, c'est exactement ça.
J'ai pris une chance.
Ça m'est arrivé quelques fois, je m'en rappelle, fait que non, c'est surtout parce qu'à un moment donné, tu vois aussi les limitations de ton appareil, parce que là, souvent, ce que je fais, c'est qu'il y a un groupe en première partie, puis j'utilise le groupe en première partie pour faire mes tests,
excellent.
Pour faire mes settings, mes affaires.
Excellent conseil.
Le seul problème étant que c'est pas un si bon conseil que ça.
Non, je sais, j'allais dire après, mais...
Parce que, généralement, le groupe en première partie a moins d'éclairage que le groupe, mm-hmm. le vrai groupe.
C'est
fait
vrai.
Que ce faisant, ça marche pas exactement de la même façon. Ce groupe-là, en première partie, il y avait vraiment pas d'éclairage dans leur visage ou rien de tout ça. Je me disais, ah, je serais jamais capable de faire quelque chose qui a de l'allure. Puis non, quand le groupe est arrivé, finalement, ben, eux autres, c'était bien, là, ça a de l'allure.
Mais ce que je voulais dire, moi, c'est que tu peux te positionner. Bon, c'est sûr que le groupe principal peut décider de monter la scène différemment ou quoi que ce soit, mais ça peut te donner au moins une pratique. Tu te remets vraiment dans le bain à ce moment-là. Tu prends quelques photos, puis là, tu t'ajustes. Puis là, quand le vrai groupe arrive, ou le groupe principal, là, au moins, tu es déjà comme plus dans l'état d'esprit. Tu es plus aux aguets, tout ça.
Oui, honnêtement, c'est plate parce que les photos sont correctes, mais c'est le vidéo qui est vraiment bon. J'ai un vidéo vraiment bon, puis c'est drôle parce que il y a une fois que le chanteur, dans tout le show, il est venu de mon bord, puis il s'est approché, puis il s'est vraiment penché en ma direction quand je filmais. Mais sinon, c'est ça, les photos sont bien, mais c'est pas les meilleures que j'ai réussi à prendre. Okay. Ça arrive.
Bon, c'est cool.
Ça faisait longtemps, faut dire.
Ben oui.
Puis toi, Steph?
Ouais, oui.
Moi, j'étais allé, il y a quelques semaines déjà, je fais pas mal de photos ces temps-ci, ça donne comme ça. J'étais allé au Centre Phi à Montréal, pour une exposition qui s'appelait Sensory Stories. Puis c'était une exposition interactive pour raconter des histoires différemment. Puis il y avait il y avait des tablettes, des iPads là, pour des trucs interactifs. Il y avait des sculptures animées. Il y avait vraiment toutes sortes de trucs. Puis ben j'en ai profité pour faire de la photo. J'ai pas fait tant de photos que ça, là, mais j'ai quand même... pris un certain plaisir à photographier les œuvres ou les écrans. Même des fois, c'est plus difficile de photographier un écran selon l'environnement aussi.
Oui, oui, vraiment.
Tu peux avoir tout simplement des reflets dedans des fois ou selon l'éclairage, ça sort pas bien. Mais en tout cas, il y avait des Oculus Rift, les lunettes de réalité virtuelle. En tout cas, il y avait pas mal de trucs intéressants. Puis j'ai mis une petite galerie, là, je pense que c'est une douzaine de photos sur Flickr. Puis je mettrai le lien dans les notes d'épisode. Petit bloc nouvelle. On va commencer avec Christian, tiens. C'est l'ordre des notes, alors vas-y.
Ah, c'est fin quand même. Je lisais cette semaine, bon, on a tous eu des téléphones avec des appareils photo, etc.
Non.
Non,
t'as un Galaxy S5.
Exact. Puis, tu sais, bon, on parle souvent qu'il y a une bonne amélioration. Tu sais, on commence à avoir des bons capteurs, là, quelque chose qui a de l'allure. Mais cette nouvelle qui m'a surpris le plus, on a déjà parlé de DxOMark qui calcule, tu sais, selon des caractères, des choses
assez. Des
critères. Ouais, des critères un peu flous, là, disons que je comprends pas tout ce qui est. Là. Vous pouvez toujours regarder. Il y a des affaires que c'est clair, des affaires que c'est. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il regarde.
Nébuleux.
Exactement. Et semble-t-il qu'en ce moment, le meilleur téléphone intelligent que vous pouvez acheter, si vous voulez avoir la meilleure caméra disponible, c'est le Xperia Z5.
De Sony.
Oui, de Sony. Je ne savais même pas qu'il était sorti.
Non plus, c'est très très récent.
C'est
parce
ça.
Que normalement, je les reçois, j'ai eu le Z2, Z3, le Z4, je ne me souviens pas. Mais normalement, je les ai. Puis là, c'est comme passé sous le radar, le Z5.
Ben, honnêtement, les téléphones à Sony passent relativement sous le radar. C'est pas mal. J'en ai un moi-même, là, ben, un très vieux, là, Xperia, mais ça fonctionne bien. C'est juste que ils sont pas éclatants. Il n'y a rien de spécial. Tu sais, je regarde là, justement le Z5, puis il ressemble quasiment mot pour mot à celui que moi j'ai du travail. Là, puis c'est un Z1. Là. Fait que, tu sais, ça n'a pas changé tant que ça. Mais pour vous donner une petite idée, le Z5 a eu un résultat de 87 points. Parallèlement, mettons, le S6 Edge, que j'ai testé d'ailleurs récemment, a eu 86 points. iPhone 6, 82. Puis, c'est reconnu qu'ils ont quand même une très bonne image, les nouveaux iPhones.
Ouais.
Fait qu'on voit que ça semble être un bon avantage. Là. C'est une caméra de 23 mégapixels.
C'est pour ça les points.
C'est Sony.
C'est ça.
C'est Sony, ils font leur capteur.
Ouais, ouais, exactement. Ouais. Par défaut, ça fait des photos de 8 mégapixels, mais quand même, tu sais, je veux dire, c'est on parle d'un autofocus qui est bon dans n'importe quelle situation, une excellente balance des blancs, les expositions pour le flash sont très bonnes, tout est bon. Puis même, et ça c'est non négligeable, pas trop de bruit en basse luminosité.
Okay.
Pour un téléphone, on s'entend que c'est là que ça tue généralement. Là.
Surtout à 23 mégapixels.
Oui,
là.
Exactement.
Il doit avoir beaucoup de calculs, justement. Si tu dis que ça sort à 8, ben, il doit avoir, un peu comme le Lumia 1020 faisait à 41 mégapixels, il sortait des photos à 5. Donc, il prenait tous les pixels autour, environnant, puis là, il prenait le meilleur pixel, finalement. Ça doit être un truc du genre, une espèce d'algorithme de calcul. Là.
Puis, mieux que ça encore, c'est même côté vidéo, on parle de quelque chose de très révolutionnaire. Ils disent que l'autofocus est très bon, que la stabilisation d'image est bien en avant de la compétition.
Mm-hmm.
Beaucoup de détails, peu de... Même chose, là, toutes les mêmes choses, veux pas, là, le niveau de bruit est bas, la balance des blancs, etc. Fait que Sony, bon, comme d'habitude, disait qu'elle allait sortir une caméra révolutionnaire pour leur appareil photo, pour leur téléphone. Tout le monde disait, on l'a entendu. On dirait que cette fois-là, il ne mentait pas.
Mm-hmm.
Je serais curieux de l'essayer.
J'imagine qu'ils servent de la technologie acquise là, avec les A7, la série. Tu sais, parce qu'ils
et
ont...
d'ailleurs...
Moi, je trouve ça génial.
J'aimerais souligner deux trucs. Premièrement, c'est pas moi qui ai sorti la nouvelle de Sony.
Non, c'est vrai ça!
Et deuxièmement, dans le même article, ils disent que le capteur du A7 R2, donc le Sony A7 R2, c'est le meilleur qu'ils ont jamais testé à ce jour avec une note de 98. C'est assez incroyable.
Mais
il n'est pas donné le A7 R2. Hein?
Non.
On parlait de quoi? De 4000$ au dernier épisode? Ou quelque chose comme ça? Il y a deux épisodes, je ne me souviens pas, mais c'est pas donné. Surtout avec le taux de change qui tue
ces
temps-ci. Parfait, merci Christian. De ton côté, François?
Il y a deux épisodes, Christian nous a un peu parlé d'un capteur de Canon de 250 millions de pixels. Je suis allé voir un petit peu qu'on voulait parler parce que c'est énorme, là, je veux dire. C'est complètement fou. Juste pour vous donner une idée, là, c'est 19 580 par 12 600 pixels
que
ça produit. Ouais, un fichier de je ne sais pas combien de mecs. Il faudrait faire le calcul. De gigs quasiment rendu.
Ben, 250 mégapixels en RAW, c'est pas loin du 250 mégs pour un fichier, je te dirais.
Ça, c'est complètement débile.
Parce que moi, avec mon 24 mégapixels, j'ai du 18, 20, 22 mégaoctets par fichier. Là, je te dirais en RAW. C'est ça.
Fait que ça commence à être lourd.
C'est tout petit.
Le capteur, il a été installé sur une caméra pour faire des tests, évidemment. Et éventuellement, ils vont, j'imagine, le produire. Pour l'instant, c'est des tests. Le capteur existe quand même. Là. Il est capable de produire des photos.
Mm-hmm.
Puis juste pour donner un exemple, ils ont pris une photo d'un avion dans le ciel qui était estimé à peu près à 18 km de distance, du point de vue du photographe.
Mm-hmm.
Et en zoomant dans la photo, on est capable de lire les lettres d'appel sur le côté de l'avion.
OK.
Donc, on parle vraiment de ultra haute résolution. Oh, là, ça n'a pas de sens. En mode vidéo, parce qu'on peut la mettre en mode vidéo, on arrive à avoir 5 images par seconde dans le mode 250 millions de pixels. Donc, c'est vraiment rapide. Là, c'est fascinant compte tenu de la quantité d'informations qui rentrent. Mm-hmm. Puis, on perd pas de sensibilité puis on gagne pas de bruit parce que c'est des techniques que Canon a développées qui peuvent appliquer sur ce capteur-là. Fait qu'on sent, le futur est vraiment fascinant. Là, qu'est-ce qu'on
vient. Okay. On espère des technologies comme ça pour des plus petits appareils.
Ben, ça va venir.
Des appareils hybrides sans miroir.
Ah oui, ça sent
bon, Canon.
C'est sûr. Ça, c'est 250 millions de pixels, c'est 125 fois le HD en vidéo puis 30 fois du 4K. C'est...
Ça devrait être pas si mal. J'imagine l'écran que ça prend pour vraiment donner pleinement justice à ce genre d'image-là.
Je pense que ça n'existe pas encore.
Je suis assez sûr.
Canon considère que la technologie va être applicable dans la surveillance, la prévention de crimes. Évidemment, des domaines, j'imagine aussi peut-être militaires, si ce n'est pas déjà fait. Là, ça...
Peut-être que je devrais équiper les fameux dépanneurs de caméras comme ça, là, au lieu d'avoir une image, une vidéo à une image seconde en 320 par 200. Secondes, lui. C'est déjà mieux quand tu as du détail.
Non, mais regardez dans CSI, ils ont l'air, d'après moi, ils ont des jours là, parce qu'ils arrivent à faire ça. Là, des jours. Hein? Que...
Ils extrapolent d'une image, puis là, ils grossissent, puis là, oups, l'image se reforme détaillée.
Mon cerveau, il explose à chaque fois que je regarde ces émissions-là.
Je me rappelle de films des années 90 qui, déjà, c'était comme ça. Il y avait accès à un satellite qui avait une image en temps réel.
Ben, ils ont fait ça dans le reboot, la nouvelle série de Knight Rider, le K2000. Ils avaient fait une nouvelle série il y a peut-être 7-8 ans, je crois.
Mustang, je pense.
Puis, il y avait accès au satellite en temps réel pour suivre quelqu'un.
De toute beauté.
C'était assez incroyable.
Bref, voilà. Je me demande quelle autre nouvelle je vais vous annoncer dans 6 mois parce que...
Quand tu regardes ça à la vitesse que ça va, là, c'est impressionnant.
Mm-hmm. Ben, merci François. De mon côté, je vous parle du Lightroom CC nouveau.
Ah!
Une nouvelle cuvée de vin.
Ah, j'ai hâte d'entendre. J'ai vraiment hâte d'entendre. C'est vraiment mon logiciel préféré de retouche photo.
Bon, mais on parle... Oui, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres vraiment. Mais oui, il y en a d'autres. Oui, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est, disons, le plus répandu,
le plus populaire. Je pense qu'on peut le dire.
Ouais. Et ouais.
Malgré ce que Christian
en pense. Désire.
Il regarde, Christian l'apprivoise. Il n'est pas 100% vendu encore, mais c'est rendu correct maintenant.
Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Ça s'améliore.
Ça progresse. Ouais.
mais par contre, il y a des nouvelles fonctionnalités de plus en plus. Puis ça, par contre, j'aime bien. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est sûr.
Oui.
C'est l'organisation que j'aime moins.
Ouais, c'est ça. Ben, je vais faire un survol très rapide quand même, là, mais je vais mettre le lien directement du blog d'Adobe qui a annoncé la nouvelle. C'est sorti le 5 octobre, donc tout récent. Et Lightroom CC en version 2015.2 a des fonctions. Là, l'article est en anglais. Il n'y avait pas eu de traduction au moment d'enregistrer cet épisode. Mm-hmm. Mais on parle de fonction Dehaze qui devient un ajustement local pour une portion de la photo, là, ces trucs-là. Il y a une nouvelle interface d'importation, ou en tout cas, ça a été revampé. Donc, pour trouver ou importer les photos, ça devient plus visuel.
Bon, à ce temps qu'on t'a habitué.
Oui, c'est ça. Maintenant,
mais je ne l'ai pas remarqué, j'avoue. Je l'ai fait la mise à jour, moi, puis j'ai pas remarqué tant de différence que ça.
Il y a peut-être une petite fonction cachée. Moi, je ne l'ai pas essayé, honnêtement. Il y a Select a Source, qui permet de choisir vos photos à partir de différents endroits, là, comme sur votre disque dur ou dans un appareil photo connecté par USB, etc. Ça a été amélioré. La sélection d'images. C'est ça. Il paraît que la fenêtre d'importation a été... redessiner un peu ou améliorer.
Je ne l'ai pas trop remarqué.
Non, c'est ça. Ça dit en option, choisir « Choose any import settings ». Il n'y avait pas vraiment de besoin de changer les paramètres par défaut, si on veut, d'importation. Mais il y a quand même un petit engrenage maintenant qui permet de changer certains paramètres là, pour ceux qui aimeraient ça. Et voilà. Puis sinon, il y a aussi Lightroom Mobile 1.3 sur Android et 2.0 sur iOS qui ont des nouveautés aussi. Sur Android, on parle d'un contrôle de couleur totale, de paquet de trucs. Là. Évidemment, on parle d'édition sur des appareils mobiles, donc il y a un petit peu moins de fonctionnalités.
Si vous... mais je ne sais pas si vous l'avez essayé, là, mais c'était très, très, très faible.
Ben, Lightroom Mobile, moi, sur un iPad mini, je l'ai utilisé, puis ça fonctionne très bien.
Pour avoir utilisé d'autres logiciels, je trouvais qu'il n'y avait pas grand setting, grand chose que tu pouvais faire avec ça.
Non, mais c'est sûr que ça ne devient pas ton logiciel principal, ça ne remplace pas la version desktop.
Non, non, puis je le comprends en même temps, sauf qu'en même temps, je sais pas, je trouve que il a pas remplacé la version desktop, puis pas me donner d'options non plus. Je sais
ben
pas,
oui,
là, moi...
Moi, je peux ajuster... pas mal de trucs.
Ben, d'abord, c'est une vieille version que j'ai essayé parce que c'est la première chose que j'ai installée quand j'ai eu mon iPad.
Okay.
Puis, j'étais tabarnouche, il n'y a rien là-dessus. Ça,
non, ben, peut-être ridicule. Que tu n'as pas trouvé les boîtes de...
j'ai cherché partout puis je n'ai pas été impressionné.
Parce que moi, ça date de novembre.
Chercher.
Ça date de novembre dernier, moi. Quand j'étais à Prague,
c'est plus vieux que ça.
Okay. OK, parce que moi, quand j'étais en voyage en Europe en novembre, j'ai utilisé Lightroom mobile sur mon iPad puis j'avais accès, je pouvais tout corriger, là, l'exposition, la clarté, la netteté, là, le white balance, tout était là.
C'est bizarre. Parce que j'avais moins que ça, moi. J'étais, vraiment, j'étais un jeu, puis tu sais, j'ai déjà pitonné avec des logiciels. J'étais comme, c'est quoi ça? Il n'y a rien là-dedans, okay. Là, vraiment. Là, j'étais allé, j'ai essayé Snapseed, j'ai essayé plein d'autres affaires. J'en ai trouvé des bien meilleurs que lui, tellement que je l'ai enlevé parce que je me dis, ça donne rien.
Ben, tu le resseras, tu vas voir, tu vas être surpris. Puis tu peux synchroniser justement tes changements à distance. Ouais. Ça, c'est la fonctionnalité qui est intéressante. Là. C'est ce qui fait qu'on s'en sert sur un appareil mobile. C'est qu'ensuite, c'est que ça permet de gagner du temps, dans le fond.
Ben oui.
Moi, je revenais le soir à ma chambre d'hôtel, j'éditais quelques photos tout de suite, puis si ma connexion Wi-Fi le permettait, ça se téléchargeait directement, ça synchronisait à la maison. Mais sinon, à la limite, ben, en arrivant, ça se fait automatiquement là, sur le réseau Wi-Fi. Donc, ça, c'était
Je vais aller regarder. Ben, de toute façon, il y a la version 2, ça vaudrait peut-être...
Ouais.
J'essaye souvent, quand il y a des versions majeures qui ressortent, des fois, tu sais, je me dis, on se réessaye.
Oui, ben d'ailleurs, Adobe a sorti plusieurs nouvelles applications. Il y a Photoshop Fix, il y a Photoshop Mix, il y a un paquet d'applications là, qui sont accessibles à ceux qui ont un abonnement de Creative Cloud. Ça vaut la peine de jeter un petit coup d'œil si jamais vous êtes déjà en train d'utiliser Lightroom et vous avez un appareil mobile. Beaucoup, beaucoup d'applications mobiles qui viennent d'être soit ajoutées ou améliorées au portefeuille d'Adobe. Rapidement, des nouveaux appareils photo qui sont supportés dans Lightroom 6.2. DXO1, Leica S, Olympus EM10 Mark II et le Sony A7S Mark II.
J'attends toujours que tu me trouves des contacts chez Leica. Hein?
Ouais, je sais. j'ai pas trouvé encore.
Ah, décevant.
Mais je travaille là-dessus. François, de ton côté, tu vas nous parler. Oh oui, tu vas nous parler des origines de l'appareil photo numérique.
Oui, oui. Puis j'ai une petite question en partant, les gars. En quelle année vous pensez que la première caméra numérique a été inventée?
Moi, je dirais en 84.
Dans les années 80.
1973.
Oh!
Puis là, garochez-vous dans ces années-là. Là. Lancez-vous dans ces années-là. Essayez d'imaginer le monde, comment que c'était. Là,
ben, Ben, en fait, je suis né en 73, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette année-là.
Non,
moi,
j'étais même pas né. Fait que...
Bon, mais je vais essayer de vous le décrire, OK? Parce que moi aussi, j'étais tout jeune, là, à peine quelques années. C'est un monde où la photographie, c'était un processus lent. Bon, ça, vous n'aurez pas de misère à l'imaginer. C'était impossible à maîtriser sans des années d'apprentissage. On ne pouvait pas arriver et se mettre à faire de la photo comme ça.
Ben, tu pouvais, mais ça donnait les résultats que nos parents avaient.
Ouais, mais non, mais même mon père avait suivi un petit cours de photo, puis je le voyais expérimenter à faire des doubles expositions, des trucs comme ça, et je trouvais ça presque ésotérique. Et ça m'a pris le numérique pour m'intéresser à la photo parce que c'était trop du hit and miss. Là,
totalement.
Il fallait essayer erreur finalement. Puis là, on allait porter notre film, notre pellicule.
T'espérais pour le mieux.
Ben oui,
c'est ça exactement. Dans ces années-là, il y avait une compagnie qui régnait en roi et maître et c'était Eastman Kodak. Mm. C'était vraiment à peu près la seule qui avait autant de roulements. Puis autant tout le monde passait par là, pas. Là,
mais c'est pas pour rien qu'on appelait ça des Kodak, puis ben pas des appareils photo non plus. Là, c'est...
Exactement. Puis en 73, dans ce monde qui existait où tout était toujours un peu plus lent pour la photo, puis qui était un long processus, il y a Steven Sasson, qui est un jeune ingénieur qui a commencé à travailler chez Eastman Kodak. Bon, vous allez deviner ce que je vais dire. Ce gars-là, c'est un peu l'inventeur.
Mm-hmm.
2 ans plus tard, la caméra numérique est sortie. Du génie de ce gars-là et à 24 ans.
Wow!
Ses patrons, ils avaient donné un petit projet à faire à Steven, c'était de voir ce qui était possible de faire avec un capteur CCD. Ça, le capteur CCD, ça capte la lumière et ça transforme l'image en impulsion électrique.
C'est en anglais, c'est Charge Coupled Device.
Voilà.
Ça existe encore.
Dans ces années-là, c'était utilisé pour la télévision, évidemment. Mm-hmm. C'était ce qui permettait de faire la télévision grâce à ce capteur-là. Donc, les patrons ont dit, amuse-toi avec ça, voir si on peut pas faire de quoi avec ça, là, tu sais, du côté de la photographie. Fait qu'il s'est mis à travailler là-dessus. Son but, c'était d'enregistrer une image avec un CCD. Le défi, ben, c'était de convertir le signal électrique que le CCD fait parce qu'il ne se garde pas. Donc, le convertir puis le numériser.
Ah ouais.
Et l'enregistrer. Mm-hmm. Ça, c'est deux, trois étapes. Là, pas facile à faire.
Moi, c'est, tu vois, le défi que je peux voir le plus gros, c'est plus l'enregistrer que je peux m'imaginer.
Ben, c'est ça. On est en 73. Ouais. Le numériser, ben, il y a un nouveau gadget qui vient de sortir qui s'appelle un convertisseur analogique à numérique. En fait, c'est, ouais, c'est ça. Je pense que c'était ça le nom. Ça transforme les signaux électriques finalement en nombre, donc en numérique. Bon, une fois que c'est fait, c'est bien beau, mais il faut l'enregistrer. Fait que pour faire ça, il faut envoyer ça dans une mémoire RAM.
Oui, parce que les disques durs étaient tellement accessibles en 73.
Voilà. Je vous rappelle qu'en 1986 ou 7 peut-être, on avait acheté un énorme disque dur pour mon ordinateur de 20 mégabytes.
Oh. Ouais.
Puis c'était huge, c'était gigantesque.
Et c'était cher.
Oui, assez horrible.
Donc, il faut qu'il puisse l'enregistrer. Dans ce temps-là, c'est ce ruban magnétique que ça se fait.
Je me vois avec mon gros ruban magnétique dans le dos, moi.
Ouais, ben, en fait, c'est un enregistreur de cassettes. Mm-hmm. En 1973, les cassettes sont sorties.
Mm-hmm.
Il s'est dit, je vais prendre ce support-là. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Apple, en 1974, ils ont sorti leur premier ordinateur kit à monter au montant de 666 $. Ils vendaient ça.
Pas cher, pareil.
Fait qu'il a fini par inventer sa caméra. Mais là, il faut pouvoir faire jouer l'image que tu as enregistrée.
Uh-huh.
Fait que là, ben, cette époque-là, c'est juste impression papier. Là. Tu sais, il n'y a pas d'impression électronique, il n'y a pas d'affichage électronique.
Il n'y a pas d'ordinateur, même on peut dire honnêtement.
Ben,
je
pratiquement dis, pas. Il y en a, mais c'est pas
dans les entreprises.
C'est ça. Ça. C'est, là,
c'est des terminaux c'est plus accessible. Souvent qu'autrement. Ce n'est pas des ordinateurs comme on connaît maintenant. Là, c'est...
Oui, tu as un mainframe et tu as des clients qui font à peu près juste afficher.
Exact.
Fait que là, Steven décide que ça va être sur une télé qu'on va afficher l'image qui est enregistrée.
Mm.
Mais à cette époque-là, là, c'est vraiment une avancée incroyable parce que tout se fait sur du papier, des produits chimiques. Là, ça serait tout électronique. Fait qu'aucune trace, aucun besoin de matériel à part la caméra qui enregistre. T'sais.
Vous imaginez-vous si ça avait pogné réellement dans ce temps-là, comment ça aurait changé tout?
Ouais.
Sérieusement, là?
Ben, ça a fini par pogner.
Oui, mais... Ouais,
mais pas celle-là. Pas celle...
Non, ça a pris quand même quasiment pas loin de 20 ans après, avant qu'on en voit vraiment... Ben, plus que ça, même. Mais imagine si, vraiment, fin des années 70, il avait trouvé vraiment un moyen de faire ça, puis que tout le monde avait, sur nos vieux gros télé, là, dans des meubles, on pouvait voir les photos directes là-dessus. Imaginez-vous où est-ce qu'on serait maintenant?
Puis ton appareil photo à l'arrière, t'as pas un écran, mais t'as une boîte à cassette, là, comme les Walkman Sony, pour enregistrer là-dessus.
Absolument, fait c'est comme ça qu'il était monté, son appareil. Fait que les patrons, il a montré ça à ses patrons, mais ils n'ont jamais voulu croire que des gens voudraient regarder des photos sur une télé. Ça faisait pas de sens. Là, tout était imprimé sur des papiers. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça ne va jamais marcher.
C'est ridicule.
Puis une autre raison, c'est que le département marketing, il se disait, attends une minute, là, nous autres, là, on fait notre argent parce qu'on vend un appareil, un Instamatic. On vend la pellicule Kodak. Uh-huh. On vend les flash cubes Kodak.
Ouais.
Le développement qui se fait chez DirectFilm ou à Pharmacie, c'est avec le processus Kodak que ça se fait sur du papier Kodak grâce à des produits chimiques Kodak. On va s'aborder si on fait ça.
Ouais. Mais ça me fait penser à tellement d'autres affaires. Tu penses à l'auto électrique, à des affaires de même. C'est toutes des affaires parallèles. Là.
Tu penses à Gillette et ses lames jetables.
Ben absolument.
Voilà.
Fait que bon, finalement, quand même, Kodak disait « On a quelque chose entre les mains, on va breveter ça. » Ils font le brevet en 78, mais l'inventeur, M. Sasson, il pouvait jamais en parler publiquement ou même montrer le prototype à l'extérieur de la compagnie. Merde. Ses patrons, ils défendaient carrément. Ils se sont assurés d'avoir le brevet, puis ça a arrêté ça.
Il est mort, là, entre guillemets.
On continue dans l'histoire. On fast-forward à 1989. Ben, ils fabriquent le premier SLR. Numérique. 1.2 mégapixels. La compagnie ne veut pas le vendre.
Ah.
Ils décident de garder. Ils ont fait le test. Ils ont dit, OK, on est capable de mettre des objectifs dessus, interchangeables, blablabla. On ne veut pas le vendre. Ils ont quand même fait des millions avec le brevet. Savez-vous comment?
Non.
Parce que le brevet échouait en 2007. Ça veut dire que toute compagnie qui fabriquait un appareil numérique avait des redevances à payer à la compagnie Kodak jusqu'en 2007. Donc, les premiers appareils numériques qu'on a vus, accessibles au public, là, je parle de quoi, 97, 98, 99 à peu près, jusqu'à 2007, des redevances à payer à Kodak.
Okay. Ah, tu vois, là, je viens de comprendre pourquoi ceux qui ont racheté ce qui restait de Kodak, c'était les brevets qu'ils voulaient.
Ben oui.
Mm-hmm. C'était juste ça qui était intéressant.
Mais il y avait une date d'échéance au brevet.
Oui, mais quand même, tu sais, j'ai...
Donc, comme je disais, quiconque voulait vendre un appareil numérique devait une redevance à Kodak. Kodak, malheureusement, ils ont embarqué un peu trop tard dans la course aux caméras numériques. Ils étaient vraiment en retard. En 2009... M. Sasson a reçu la médaille de la technologie et de l'innovation des mains même du président Obama parce que c'était vraiment une percée technologique incroyable, même si elle est arrivée avec du retard.
Ben oui.
À cause de Eastman Kodak qui a tout retardé ça.
Ben oui.
Et en 2012, Kodak a déclaré faillite. Ouais. 3 ans seulement plus tard, après que l'inventeur a reçu la médaille d'innovation technologique.
Quelle ironie, mais il devait être assez fier, pareil, de
mais son... On va se le dire, là, je ne sais pas pour vous autres, mais les appareils photo numériques Kodak, là, c'était tout du bas de gamme. Là.
Ouais.
Il n'y a jamais rien eu d'autre que du bas de gamme ou à peu près. Là. Moi, je me rappelle, un qui m'avait fasciné dans le temps, c'était un petit appareil photo qui venait avec une base que tu mettais dessus puis ça te permettait d'envoyer tes photos super rapidement à l'ordinateur.
Okay.
J'étais tout impressionné de ça, mais...
Mais moi, j'en avais eu un qui appelait à l'époque, je sais pas si c'était un hybride ou en tout cas, il y avait un capteur, un viseur numérique qui avait un délai de presque un quart de seconde. C'était incroyable, là, mais après... quelques jours, tu finissais par t'habituer puis t'essayais de faire de la photo assez fixe et non suivre un sujet en mouvement parce que là, ça devenait impossible. Il y avait un trop gros délai, mais ça fonctionnait avec, tu sais, carte SD, tout le kit.
Ça... Mais ça, c'est des tentatives tardives là, de vouloir suivre...
Ça a été dans mes premiers appareils, je te dirais en 2007 à peu près,
c'est ça.
Que j'ai acheté. Puis après, quand j'ai
c'est parce qu'il y avait encore la réputation d'un bon appareil Kodak puis ils ont beaucoup misé là-dessus.
Ouais.
Je me rappelle, tout le monde en voulait justement parce que c'était des Kodak. Mais non, c'était pas bon.
Non, c'est ça. Ben, c'est ce qui m'a un peu lassé des appareils justement ben bas de gamme, disons-le. Il était quand même dans les 400$ il y a presque 10 ans. C'est quand même un bon montant, mais là, c'est là que je suis passé avec mon fameux XSI, le 450D de Canon, parce que je voyais que... Le viseur numérique n'était pas prêt, fait que je suis passé au viseur optique, vraiment un SLR, mais c'est... En tout cas, j'en ai essayé un compact, puis un espèce d'hybride qui appelait là, l'ancêtre des super zooms qui existent en ce moment, là, les 35-50X de zoom. Là, que d'ailleurs, je déconseille, à moins que vous ayez un but très précis pour utiliser ce type d'appareil-là, peut-être pour photographier la Lune, on ne sait pas, là, mais un super zoom, là...
C'est pas super.
Non. Ben, tu sais, à 50x, pour vrai, là, si tu passes de. T'es rendu à l'équivalent d'un 1000 mm, puis tu tiens ça à main levée, là, oublie ça, là, tu vas avoir du flou
je
dedans.
Je me rappelle qu'on en avait testé un, c'est un Fuji dont qui allait jusqu'à 1000x ou quelque chose dans ce 1000 mm. Puis t'as ça qui était l'enfer parce que tu bouges, puis tu bouges un millipoil, puis tu vois plus rien au bout. Puis c'est parce qu'au bout de l'image. Elle n'est plus belle non plus, là. Ça. Tu perds tellement de détails que...
C'est ça, il y a l'addition aussi des verres à l'intérieur de l'objectif qui fait qu'à un moment donné, il y a des limites physiques.
C'est ça.
Tu sais, c'est pas pour rien qu'on dit qu'un objectif, le mode le plus efficace est souvent à peu près au milieu de sa course, en moyenne,
le
peu
tiers
importe.
Central, si on
c'est,
veut.
C'est
là,
ça, parce que c'est là qu'elle est à son apogée pour l'alignement des verres. À moins d'avoir un objectif de super qualité, mais là, on paye pour.
Ouais,
mais les super zooms, généralement...
Il est encombrant. Si tu regardes, là, justement, les photographes, quand ils regardent prendre sur le bord des lignes de mêlée au football ou des choses comme ça qui ont des 300 ou 400 mm à f2.8, là... C'est gros, c'est encombrant. Ouais,
grosseur télescope.
Ben ouais, c'est ça. C'est ce que ça prend.
Ouais, t'as pas le choix,
il faut qu'il y ait une certaine quantité de lumière qui entre.
Et voilà.
Quand t'as à peu près, je sais pas moi, 2 pieds de long d'objectif, il faut qu'à l'autre bout, ça soit ouvert en maudit, là, le diamètre de l'objectif du verre. Parce
la
que sinon, il n'y a pas assez de lumière qui peut traverser. 2 pieds, là, tu sais, de l'objectif.
La Sigma, c'est quoi? C'est 250, 500 ou 300, 500, quelque chose dans ce style-là, qui a l'air d'un bazooka, là.
Ouais, ouais, ouais.
Gigantesque, verte, là.
Ouais.
Je l'avais déjà, j'ai déjà pris des photos avec, c'est quelque chose.
Ah, ouais.
Ouais.
Au salon de la photo?
Ouais.
Oui.
Ouais, ouais.
Ouais.
Moi aussi, je m'étais amusé avec.
Bon, ouais, parfait. C'était fort intéressant. Merci, François.
Ben,
fait longtemps, hein, quand tu regardes ça, pareil. C'est l'évolution, tu sais, 72, puis finalement, en réalité, c'est quoi, c'est...
fin 90 que ça a commencé vraiment là,
à grand être... public là,
à grand public.
Ouais. Ben, fin 90, grand public, c'est fin 90.
Ouais, ouais. Ouais. Fait que ça a pris du temps.
Ouais. 25 ans minimum.
Ouais. Ouais. Que oh d'années perdues, hein? On serait rendu ailleurs. Là.
Oui. Oui. Oh oui. Ben, il y a tellement de domaines dans lesquels on a perdu des années à ben cause oui. de brevets ou à cause de secrets comme ça.
Ou de marketing.
Ou de marketing.
À vouloir protéger leur marché, ben, ils se sont sabordés. Finalement,
oui. ça leur a coûté plus cher au bout de la ligne.
Ouais, ouais. Ouais.
Oh, ben, merci.
Soyez innovateurs, c'est ça que ça veut dire.
Et battez-vous pour vos idées.
C'est bien.
Les grandes phrases.
Alors, on va passer aux suggestions de la semaine. Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu nous présentes?
J'ai vu un timelapse super intéressant qui était... Bon, on est habitué, on en a vu un et un autre des timelapses, mais celui-là, ce qui est quelque chose à voir, c'est un timelapse du port d'Amsterdam alors qu'il y a une course de bateaux. Mais c'est la quantité de bateaux qu'il y a en même temps dans le port. Vous n'aurez jamais vu ça
mais
de
attends,
votre vie.
J'ai vu ça cette semaine, mais c'était pas une course.
Ben, en tout cas, moi, il avait l'air de dire que c'était une course. Je ne sais plus, là, c'est un article que j'ai trouvé un certain bout de temps. Là.
OK.
Mais c'est peut-être pas la course, c'est peut-être juste le port d'Amsterdam. Mais tout ça pour dire que ça donne quasiment ouais. mal à la tête à voir le nombre de bateaux qui ouais. passent en
même temps.
D'accord,
c'est complètement aberrant. C'est comme, voyons donc, ça existe, ça?
Oui, oui, c'est ça, exactement.
Sur l'eau?
La personne qui a besoin de planifier le trajet de chacun de ces bateaux-là, là, c'est quelque chose.
Ah non, mais écoute, ça donne l'impression de regarder le trafic à l'heure de pointe en Asie.
Oui,
oui. Genre à Beijing, tu sais. Ça n'a pas de sens. C'est rempli là, de bateaux qui n'arrêtent pas de...
Tous les sens, toutes les affaires. Oui. Là, tu te dis,
des
ils vont se rentrer
des gros,
dedans.
Des voiliers, des paquebots. Des...
Ce qui est drôle, c'est que le timelapse, c'est quand même une rapidité assez élevée. Fait que ça donne encore plus. T'sais, tu vois quasiment, t'entends quasiment la musique de Benny Hill qui joue en même temps. Là.
On le voit bien. Là, ouais.
Ah non, alors, vous irez voir ça. Ouais,
mais c'est beau en plus quand même. Mm. Mais c'est ça, je te dis, il me semble que c'est une course ou quelque chose en même, parce qu'il y a beaucoup de bateaux particuliers dedans.
Écoute, je ne suis pas un expert là, en navigation, mais ça me semble être le trafic fluvial, tu sais. Normal, mais bon, ouais. On ne s'assinera pas là-dessus.
On laissera les auditeurs se prononcer.
Exact. Oui, oui.
Il doit y avoir des connaisseurs, des experts.
Écrivez-nous.
Parfait. François, toi, de ton côté...
De mon côté, j'ai une petite suggestion de tutoriel. C'est un de mes amis, Thibaut, qui m'a envoyé ça. Il me dit, écoute, tu devrais regarder ça. C'est Christopher Frost Photography. C'est un canal YouTube. Mm-hmm. Puis c'est un gars qui est vraiment dédié à enseigner, en fait, à faire des tests d'objectifs, puis de toutes sortes de trucs en photo. Super intéressant le côté qui rend ces vidéos, comment il est fait. Des fois, tu écoutes des vidéos puis les gens, ils n'ont juste pas la bonne façon d'amener le sujet.
Ou la bonne intonation.
Exactement. C'est des petits détails des fois qui font que oh, je passe à la prochaine vidéo. Mm-hmm. Lui, c'est super attirant visuellement comme à l'écoute. Puis bon, c'est juste un autre site qui parle de tests d'objectifs, de tests d'appareils, de trucs comme ça. Même en bonus, ben, il y a des passages de la Bible. Je vous laisserai aller voir ça. Il s'est filmé genre sous un arbre en train de lire des passages de la Bible.
OK.
Fait que ah bon? J'ai trouvé ça juste en fait comme OK, le gars, il y a quelque chose d'intéressant là. Juste son côté complètement à côté, là, tu sais, du sujet de la photographie. C'est dans les notes d'épisode, vous irez voir ça. Christopher Frost Photography.
Parfait. Moi, de mon côté, je vous parle d'une caméra GoPro qui se trouvait, ben, qui était en train de filmer des trucs à Burning Man.
Ah, oh, que j'aimerais ça y aller.
Oui, hein, ça a l'air quelque chose. Et là, la caméra qui était accrochée après peut-être un drone ou un truc du genre, se détache, tombe, et là, quelqu'un la prend et ça se retrouve sur un plancher de danse. Et là, c'est la fête totale.
C'est bon.
C'est intéressant à regarder comme vidéo, mais le site où j'avais trouvé la nouvelle, il y avait un petit vote en dessous là, pour savoir est-ce que vous croyez que c'est vrai ou que c'est un hoax, un canular.
Mm-hmm.
Et en date d'aujourd'hui, de l'enregistrement, il y avait 87,8% des gens qui croyaient que c'était un canular.
Ah.
Ben, je l'ai regardé, j'avoue, puis moi aussi, je pencherais un peu de ce côté-là. Parce que aussitôt que la caméra est récupérée au sol, tout de suite, on se met en mode party. Il y a ben personne qui fait comment?
Ben regarde, oui, c'est ça, c'est cool, ouais. C'est ça, personne ne s'étonne de trouver ça.
Non, ou, c'est tout de suite le let's go, ouais. Une caméra, elle doit tourner, fait qu'on va se filmer.
C'est ça. Ah oui, c'est sûr qu'elle est en fonction, alors apportons-la.
Ouais, ouais, ouais. Mais bon, peu importe, c'est ouais. drôle comme résultat.
Ouais, t'sais. Absolument. À regarder, justement. Alors voilà, ça conclut déjà ce 79e épisode d'Objectif numérique. Merci d'être toujours fidèle à l'écoute, chers auditeurs. Merci François.
Merci beaucoup.
Merci Christian.
Merci Stéphane.
Merci à vous deux aussi de toujours être fidèles au poste.
Ah mais écoute, c'est que du bonheur.
Ça nous fait tellement plaisir.
Pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast@objectifnumérique.com. Vous nous envoyez vos questions, vos commentaires, vos suggestions. Pour nous suivre sur Twitter, c'est Au Numérique, et sur Facebook et Google+, cherchez Objectif Numérique. Au prochain épisode, on va parler... Ah, je vais vous parler du World Press Photo 2015. On va parler comment transformer votre iPhone en caméscope Super 8 et des conseils photo, des photos de la Deuxième Guerre mondiale en HD, toutes sortes de trucs. Soyez à l'affût pour le prochain épisode et d'ici là, à vos déclencheurs!